Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon.
Merci beaucoup. Oh là là, je vais pleurer. Là. J'ai jamais eu ça de ma... Vous pouvez imaginer que j'ai jamais eu ça de ma vie. Et écoutez, je suis tellement... Voilà, j'étais vraiment sur le point de me mettre à pleurer, là. L'émotion est... Je suis submergé, comme on dit. Écoutez, moi, c'est formidable cet accueil. Pas de mots. Hier, je ne m'y attendais pas du tout. Non, vous allez dire que c'est vraiment... Et c'est vraiment, je ne m'y attendais pas, parce que... Je ne m'y attendais pas pour plein de raisons. D'abord parce que ça arrive à quelques personnes et beaucoup de gens qui sont excellents et qui ne l'ont pas, quoi, et qui le mériteraient. Donc de l'avoir, c'est une chance incroyable. Mais surtout, l'an dernier, ils avaient donné un prix pour quelque chose qui n'était pas ce qu'on faisait nous, mais disons qui était assez proche de ce qu'on faisait, quoi. C'était des gens qui travaillaient, qui étaient préoccupés par les ressorts du développement, par une autre approche, mais c'était quand même assez proche de nos préoccupations. Donc moi, j'avais dans l'idée qu'il passerait à autre chose. Il ferait économétrie, théorie économique, théorie des jeux, économie comportementale. Voilà, il y a plein d'autres sujets, quoi. Et j'étais certain, et c'est la première fois que je m'étais endormi le dimanche en me disant, vraiment, demain... Je n'ai absolument rien à voir avec ça, quoi. Vraiment, rien du tout, quoi. Donc, tranquille, voilà. Donc, voilà, il y a 10h30 hier matin, le téléphone a sonné. J'ai vu plus 46, donc 46, c'est le code de la Suède. J'ai vu, oh. Et voilà, ils m'ont annoncé la nouvelle, quoi. Et puis, ils m'ont demandé si j'avais le numéro de téléphone de mes coloriens. Donc j'ai écouté, j'en ai un, je sais trouver l'autre. Et puis depuis, c'est un basculement dans... Alors évidemment, on est inondé de messages adorables, de SMS, d'emails, de... Et puis on plonge totalement dans un autre monde, voilà. J'avais Jean Tirole au téléphone qui m'appelait, me dit « Bon, je vais te donner des conseils. » C'est que tu es en mélange de grande euphorie et fais attention que ça n'aille pas vers la dépression parce qu'il s'arrive tellement de choses, tu ne dors plus. Moi, je n'ai pas dormi pendant une semaine, me dit-il, et l'euphorie peut tourner un peu à une forme de dépression. Quoi. On me demande d'éviter de regarder les réseaux sociaux. On me dit « Ne regarde pas trop les réseaux sociaux. » Et puis voilà, enfin, c'est une aventure extraordinaire et je n'arrive toujours pas à y croire, quoi, évidemment. Donc d'habitude, depuis 10 ans que je fais ce cours, parce que je vais me lever quand même, d'habitude, ce que je fais, c'est que je présente les prix Nobel, quoi. Je ne vais pas me présenter moi-même, quoi. Mais nous sommes quand même 3 à partager ce prix. Et en fait, je n'ai d'autant moins besoin de les présenter que, bon, Peter Howitt, c'est mon co-auteur avec qui nous avons élaboré le modèle schumpeterien, donc je vous en ai pas mal parlé, et ça fait 10 ans que j'en parle. Et Mokyr, je vous en ai parlé la dernière fois, d'accord? Donc vous savez qui est Mokyr, voilà, et je vais vous reparler de Mokyr encore aujourd'hui, la prochaine. Et Mokyr, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, va venir donner 3 leçons au Collège de France. Patricia, c'est en mai ou en avril? En mai. Donc il ne faut absolument pas rater Mokyr, qui est un merveilleux orateur et un formidable historien de la croissance et de l'innovation. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a un projet de bouquin, on a un projet de livre ensemble, et il venait aussi pour donner ses leçons et parce qu'on travaillait ensemble sur notre livre. Et je ne me doutais pas qu'on allait partager un prix Nobel, quoi, voilà, dans ce genre de choses. Voilà. Donc je suis ravi, évidemment. Je ne pouvais pas imaginer de meilleures personnes avec qui partager. En plus, ce sont à la fois des universitaires de premier plan, des formidables chercheurs en économie, et puis c'est des gens très sympas, quoi. Ils ont des personnalités très agréables, très avenantes, et voilà. Donc c'est un plaisir de partager ce prix avec, voilà. Donc voilà, on est. Donc finalement, j'ai pas passé du temps à vous expliquer ce que font les prix Nobel de cette année, ce qui fait que du coup, nous allons pouvoir continuer le cours que nous avions commencé la dernière fois. Et voilà, mais donc en fait, ce qui va se passer, c'est que On doit passer une semaine à Stockholm du 6 au 13 décembre. Je crois que le dîner a lieu le 10 et la remise est le dîner. Et puis ils vous font donner des leçons et puis vous êtes dans différents endroits en Suède. Et voilà. Et on présente le roi et la reine de Suède. Et voilà. Et voilà. Et donc évidemment je vais leur dire que évidemment ce sont des descendants de Bernadotte quand même. Donc, ben oui, quand même, c'est des Français. Ils sont plus français que moi, quoi, pratiquement. Non, enfin, oui. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Donc, je vais peut-être passer directement au cours d'aujourd'hui. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons vu un petit peu les prémices du décollage, un petit peu. On a parlé de révolution agricole, on a parlé d'urbanisation et on a parlé de la mise en place de la République des idées avec des révolutions technologiques comme l'imprimerie qui ont favorisé ou comme la diffusion des idées, voilà, et la constitution de clubs d'idées, d'échanges. Je vais maintenant parler vraiment de la trappe malthusienne et comment sortir de cette trappe. Alors j'en parlerai aujourd'hui et la prochaine fois. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous voulez essayer de comprendre pourquoi, si vous représentez ici les années, hein, le temps, hein, je sais pas, le temps, et là vous représentez le PIB mondial ou le PIB par tête mondial, enfin vous avez en gros une stagnation. Enfin, c'est pas vrai parce qu'il y a des épisodes de croissance dans différents endroits, dont Venise, dont d'autres, mais c'est des épisodes qui durent pas longtemps. Et à un moment donné, il y a un vrai décollage à partir de 1820 et ça se passe en Europe. Et en gros, voilà. Et donc la question, c'est d'abord pourquoi il y a un décollage. Et surtout, on veut poser la question, c'est que pendant la période de stagnation, il n'y a pas seulement une stagnation du PIB, mais il y a aussi une stagnation de la population. Il y a pratiquement pas de croissance de la population mondiale. Voilà, c'est très, depuis 2000 ans, jusqu'en 1820. Donc on veut comprendre à la fois la stagnation de la démographique et la stagnation économique. Voilà. Et un modèle qui puisse permettre de comprendre les deux. Et c'est là qu'est la traite du modèle malthusien. Malthus est arrivé avec une histoire très très simple qui vous explique à la fois la stagnation du PIB, mais également pourquoi la population essentiellement stagne peut-être un tout petit peu avant la révolution industrielle. Donc on va essayer de comprendre ça. On va voir qu'il y a différentes approches, comme d'habitude, il y a toujours des controverses, et on va essayer de voir un peu ce que c'est. Et évidemment, on va voir un peu l'approche que Mokyr a poussée davantage, qui est l'approche institutionnelle, et qui est très liée au paradigme schumpeterien, qu'on pousse avec Peter Howitt. Mais avant, il y a d'autres histoires. Donc je voudrais que vous expliquiez ce qu'un peu la trappe malthusienne, qu'est-ce que c'est. Et puis il y a une explication d'abord technologico-démographique au décollage. Et puis il y a une explication plus institutionnelle, celle que pousse Mokyr et celle que nous pensons nous-mêmes. Et c'est ça que je vais. Et c'est ça un petit peu le menu des réjouissances pour aujourd'hui et mardi prochain. Voilà. D'accord. Donc je vais. Voilà. Donc voilà. Alors, le lien. Alors, d'abord, j'aimerais le lien entre croissance et démographie, d'abord, parce qu'on va parler de population et de démographie, d'accord. Alors, évidemment, j'ai parlé la dernière fois du modèle néoclassique, où je disais, voilà, on produit de l'output avec du capital, avec un stock de capital et avec du travail, évidemment. Dans un modèle comme ça, où il y a accumulation de capital, en fait, si vous voulez, quand il y a croissance de la population, la croissance de la population peut vous donner pendant un certain temps une croissance du PIB. En tout cas, ça vous donne une croissance du PIB et une croissance du PIB par tête, jusqu'à un certain point. Donc, dans le modèle néoclassique, en tout cas, on peut se dire, une population plus nombreuse permet de produire davantage et donc ça nourrit la croissance économique. Voilà, si j'ai plus de... On voit bien que nous, là, par exemple, on a des problèmes de natalité. On a moins de... Et c'est un problème pour nous. Donc, à première vue, on se dit, en tout cas, la démographie devrait pousser la croissance. Quoi. Voilà. Alors, on ne dit pas d'où vient la croissance démographique, mais si on s'en tient au premier modèle dont j'avais parlé, le modèle néoclassique, le modèle de Solow, on produit avec du capital, du travail, eh bien, si on augmente le stock de travail, on augmente la production. Hein. Ça, c'est tout à fait de base. Mais on va voir, et du coup, Mais évidemment, la question, c'est comment expliquer l'évolution démographique elle-même. Est-ce qu'elle-même ne résulte pas du processus de croissance? Donc, on voit bien que une croissance de la population vous donne une croissance du PIB, mais il se pourrait qu'il y ait un effet en retour. La croissance du PIB peut-être alimente la croissance de la population. Donc, on aimerait en faire une théorie qui explique à la fois l'évolution du PIB et l'évolution de la population. Et c'est ça que Malthus vous propose, voyez. Et c'est un paradigme qui est très fort. Et le modèle malthusien, certains peuvent le trouver simpliste, mais c'est un modèle très ancré. Par exemple, les économistes de la décroissance vivent dans un monde malthusien. C'est très fort, Malthus, voyez. Je veux dire, c'est un modèle que les gens ont consciemment à l'esprit ou inconsciemment à l'esprit. Mais c'est un modèle qui vraiment s'est imposé, quoi. Et donc, évidemment, je pense différemment du modèle de Malthus, mais c'est un modèle que beaucoup de gens ont à l'esprit. Donc, démographie et développement économique. Alors, donc moi, je reprends ce que j'ai écrit là au tableau. Avant le décollage, on observe une stagnation relative à la fois du PIB et de la population. Comment l'expliquer? Et donc, c'est tout l'objet du modèle de Malthus, d'accord? Donc, le plan, je vais d'abord parler un peu de population et de production de richesses. Ensuite, je vais vous décrire le modèle de Malthus et ensuite, je vais vous donner l'explication démographique au décollage, d'accord? Et après, je passerai à la leçon suivante, peut-être qu'on la commence aujourd'hui, sur l'approche institutionnelle du décollage, d'accord? Alors, quantifier la production de richesses. Alors, je vais juste vous parler un peu, faire une brève histoire des indicateurs économiques et démographiques. Pour étudier les liens entre développement économique et démographie, il faut des données sur la production de richesses et la population. Donc, les premières traces de tentatives de quantifier la population remontent à l'Antiquité. Il y a d'abord des premières listes qui apparaissent vers 2800 avant Jésus-Christ avec les noms de guerriers tués et d'ouvriers. Ces opérations sont progressivement étendues à l'ensemble de la population. Le livre des nombres, rédigé entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, évoque un recensement des Hébreux de sexe masculin. Le perfectionnement des techniques de recensement atteint un sommet en Chine sous la dynastie Ming. Tous les 10 ans, un modèle de formulaire et de registre est transmis aux sous-préfectures qui sont ensuite chargées de diffuser le formulaire à toutes les familles et de remonter les données. Vous voyez, les Chinois, ils ont été pionniers dans beaucoup de choses. Pour ça, on se demande toujours pourquoi la révolution industrielle n'a pas eu lieu en Chine. Et ça, on va revenir là-dessus. C'est quand même une des grandes énigmes historiques. C'est pourquoi, alors que c'est là-bas que les grandes inventions ont eu lieu, pourquoi le décollage économique ne s'est pas produit en Chine. D'accord ? Donc, l'Antiquité marque aussi l'apparition des premières mesures de production de richesses. Voilà. Au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, l'écriture cunéiforme est utilisée pour indiquer la production des différentes parcelles au sein des rapports transmis au roi. Dans l'Égypte antique, le pharaon et sa suite, pour prélever l'impôt, se rendent dans chaque district pour réaliser un recensement du bétail, au moins tous les 2 ans, et ils estiment la production agricole à partir de l'intensité de la crue annuelle du Nil. Vous voyez les premières tentatives de mesurer le PIB, quoi. Au Moyen-Âge, en Europe, les méthodes de quantification économique et démographique héritées de l'Antiquité sont progressivement abandonnées parallèlement au morcellement politique du continent. Cette situation est remise en cause par l'essor au XVIIe siècle des États modernes. Donc, 2 amis hommes d'affaires anglais vont poser les bases de la statistique moderne, William Petty et John Grant. OK, donc je vais vous parler un petit peu de ces deux personnes. Alors, je suis là. Alors, en 1662, Grant d'abord, il publie ses observations sur les tables de mortalité. Il invente la première table de mortalité, suppose que la probabilité de survivre 1 an de plus est constante. Il propose 2 estimations de la population de Londres à partir du nombre de décès de sa table de mortalité. Et il arrive à une estimation, ou bien il multiplie le nombre de foyers par le nombre moyen d'occupants. Et il arrive à un chiffre, voilà. Donc, il arrive à un chiffre pas très loin de chiffre pas très loin, 460 000 et 384 000. C'est pas le même chiffre, mais c'est le même ordre de grandeur par 2 méthodes différentes. D'accord ? Alors Petit, lui, reproduit les deux méthodes de Grant pour proposer une nouvelle estimation de la population de Londres. Il arrive à environ 670 000. Il milite également sans succès auprès du roi pour mener un recensement national. Et ses travaux ont notamment pour objectif de prouver la supériorité de Londres et de l'Angleterre sur Paris et la France. Évidemment, toujours la rivalité. Hein. D'accord. À partir de calculs très hypothétiques, il tente aussi de reconstituer la population mondiale depuis le déluge et de projeter la population anglaise jusqu'en 1842. Alors, on arrive là. En 1665, Petit est le premier à tenter d'estimer l'activité économique. Selon ses calculs, l'Angleterre produit chaque année environ 40 millions de livres de richesse. Mais vous voyez, on est quand même sur quelque chose de constant à peu près. Vous voyez, un PIB qui ne change pas, d'accord ? Il s'appuie sur des registres fiscaux, mais aussi sur des hypothèses assez fortes. Dans un contexte de réforme fiscale, son objectif est de plaider pour une répartition plus équitable de l'impôt qui pèse excessivement sur le foncier agricole par rapport au travail. Le travail est le père et le principe actif de la richesse. La terre en est la mère. Voilà. Les travaux de Petit s'inscrivent dans un agenda plus large de rationalisation de l'action publique et nécessitent de connaître précisément la production de richesse pour harmoniser la taille des paroisses, déterminer les besoins en soldats, médecins, prêtres, lutter contre les parasites sociaux. Il déduit également de ses travaux un engagement nataliste, renforcer la puissance de l'Angleterre, nécessite d'encourager la fertilité. Voilà, donc je vais maintenant parler un peu de démographie sur le long terme. Par exemple, donc ça c'est Madison, donc je vais revenir donc à ce monsieur-là, d'accord. Ça c'est Madison hein, qui a créé cette courbe. Donc je vais être un peu plus détaillé sur la courbe de Madison, on va vraiment être préoccupé par cette courbe. Donc Madison reconstitue des séries longues depuis l'an zéro pour plusieurs indicateurs démographiques économiques. Auparavant, la recherche quantitative en histoire économique s'était concentrée sur les 19e et 20e siècles, c'est-à-dire au moment même du décollage de la croissance, ou juste avant, juste après, quoi. Et ce que fait Madison, c'est qu'il va essayer de remonter le temps, d'accord ? Et comment il va remonter le temps ? Il va s'appuyer sur différentes sources. Depuis 1950, des données standardisées publiées dans la plupart des comptabilités nationales. Entre 1820 et 1950, il utilise des registres et sources administratives qui donnent un suivi de la population et des revenus, mais il est nécessaire de les harmoniser. Et alors après, il faut remonter au-delà de 1820. Et pour remonter au-delà de 1820, en Europe, eh bien, il utilise la population, les registres nationaux corrigés des événements historiques, le PIB à partir de la production des différents secteurs d'activité ou d'un pays voisin économiquement similaire. Tu vois, il fait des inférences, tu vois. Et puis, le reste du monde, il s'appuie sur des hypothèses très fortes. Voilà. Et entre 0 et 1500, les estimations sont beaucoup plus indirectes. Elles reposent sur des taux d'urbanisation et le salaire réel. Donc, il a des données sur combien de personnes il y a et quel était le salaire réel. Et donc, j'en déduis quel était le PIB, quoi. Donc là, il fait de l'inférence, tu vois. Voilà, donc évidemment, il n'a pas d'INSEE à l'époque, hein, il n'y a pas d'office de statistiques dans les années entre zéro, voilà. L'idée, c'est qu'au total, c'est un truc gigantesque, il propose une base de données unifiée au niveau mondial, donc il standardise les méthodologies d'un pays à l'autre, il s'appuie sur des référentiels pour réaliser des conversions en parité de pouvoir d'achat, de données de production ou de consommation exprimées en général en monnaie nationale. Ces référentiels sont fondés sur des comparaisons de pouvoir d'achat en 1990, ça peut entraîner des biais dans l'estimation du PIB à des horizons relativement lointains. Mais les données manquent pour estimer une parité de pouvoir d'achat à des époques anciennes, évidemment. Hein. Voilà. Alors, après la mort de Madison, ses travaux sont poursuivis par des collègues de l'université de Groningen. Les données sont régulièrement mises à jour pour intégrer les dernières avancées de la recherche. La dernière version de la base de données a été publiée en 2023. Elle couvre plus de 160 pays de l'époque romaine à nos jours. Et lorsqu'ils sont de bonne qualité, la dernière version intègre des référentiels de pouvoir d'achat, de parité de pouvoir d'achat à des stats plus anciennes. Elle intègre également un plus grand nombre de données pour l'époque pré-industrielle, par exemple pour la Chine ou l'Afrique subsaharienne. D'accord ? Donc la dernière version du projet Madison s'appuie sur les données de cet article-là, de Ridolfi Nuvolari, pour le cas de la France pré-industrielle. Faute de données de production suffisamment complètes, les auteurs adoptent une approche par la demande. Ils estiment la production agricole totale à partir du salaire réel, du prix des biens agricoles et manufacturés et de la population. Il multiplie par la part de l'agriculture dans le PIB, estimée à partir du salaire réel dans les secteurs des biens agricoles et manufacturés, et de la part de la population active ayant un emploi. Et donc, en faisant tout ça, eh ben, ils arrivent, voilà, sur la France, par exemple, voilà la courbe de Madison. Mais vous voyez, ça, cette tête-là, vous voyez, ça, c'est à peu près comme ce que j'ai fait au tableau. il y a des petites variations, mais le décollage a lieu toujours en 1800, voilà, entre 1840, 1840. Donc on obtient une trajectoire continue du pi par tête au lieu de points isolés dans le temps, et on regarde, alors évidemment, il peut y avoir des petits accidents, des petites variations de court terme, mais on voit bien la forme de la courbe, ok? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est par exemple, si on regarde le XVIIe siècle, il est marqué par une croissance très faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est de 0,13% par an. Donc, il y a un peu de croissance avant le décollage. Mais c'est une croissance à des taux très, très faibles. D'accord ? Et le décollage a vraiment lieu avec la première révolution industrielle. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on arrive à ça, donc ce que j'ai fait au tableau. Et en fait, vous voyez que la croissance, telle qu'on la connaît maintenant, enfin maintenant, j'ai que de nos jours en France, la croissance n'est pas très élevée, mais enfin telle qu'on la connaît, eh bien, c'est un phénomène très récent, c'est un phénomène vieux d'à peine deux siècles, d'accord ? Donc évidemment, il va y avoir accélération entre le taux de croissance annuel moyen est de 1/19 entre l'an 1000 et l'an 1820. Il est de 0,5 entre 1820 et 1870, mais ça veut dire qu'en Angleterre, on croit très vite, puisque la plupart des pays ne croissent pas du tout. Donc ça, c'est la moyenne mondiale. Donc pour arriver à une moyenne mondiale de 0,5, ça veut dire que l'Angleterre, elle a un taux de croissance bien supérieur à 0,5, d'accord ? Mais n'emboîte pas le pas immédiatement à l'Angleterre, évidemment. Hein. Et entre 1950 et 1970, eh bien, le taux annuel moyen dépasse les 3-4%. Et en fait, au total, entre 1820 et 2020, le PIB moyen par tête dans le monde a été multiplié par 13. Et là, on voit, alors qu'il n'avait quasiment pas augmenté entre l'an 0 et l'an 1820, d'accord ? Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est que la croissance, c'est vraiment quelque chose de très récent, d'accord ? Alors, évidemment, je vous ai dit, il y avait une légère croissance à mon avis, la source de croissance avant la révolution industrielle, c'était un peu de commerce, à mon avis. Le commerce a un peu aidé, a été une source de croissance. Venise a prospéré grâce au commerce pendant un certain temps. Donc, les grandes découvertes et le commerce ont été une source de croissance pré-industrielle, mais beaucoup moins importante que le décollage, d'accord ? Donc, la faible croissance à long terme, elle s'accompagnait de variations fortes à court terme. Il pouvait y avoir des grosses variations. Entre 1350 et 1420, le PIB par tête de l'Italie augmente de 40%, soit en moyenne 0,8, mais ça ne dure jamais, d'accord ? Venise, par exemple, on reviendra sur Venise. Venise, c'est très intéressant. À un moment donné, il y a une expansion extraordinaire de Venise, et puis après, tout d'un coup, ça s'arrête. Et c'est assez schumpeterien quand même, parce que c'est à un moment donné, on veut cesser qu'il y ait de nouveaux entrants. Donc à un moment donné, les gens en place, les doges, décident qu'on ferme les vannes, quoi, et on empêche l'entrée de nouveaux acteurs, et ça plombe la croissance à Venise. Donc c'est, bien qu'étant pré-industriel, c'est quand même la dynamique schumpeterienne, les gens en place empêchent de nouveaux entrants. Ça c'est un élément qui est, voilà, donc la destruction créatrice, pourquoi on a eu le prix maintenant, c'est de montrer le caractère absolument crucial de la destruction créatrice dans le processus de croissance, c'est-à-dire que quand vous fermez les vannes et vous empêchez de nouveaux talents d'arriver et de nouvelles entreprises, eh bien, vous inhibez considérablement la croissance d'un pays. D'accord ? Alors, je vais maintenant parler du décollage, d'accord ? Mais je vais revenir après à la trappe malthusienne, d'accord ? Le terme de décollage a été introduit par l'économiste américain Walt Rostow dans son ouvrage Étape de la croissance. Il ne désigne pas le début de la croissance, mais une accélération sans précédent de celle-ci qui a débuté en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle, avant de s'étendre à travers le monde occidental. La notion de décollage a été critiquée notamment par Kuznets parce qu'elle suppose une rupture binaire, alors que dans certains cas, la croissance a connu des accélérations successives. Historiquement, cette étape coïncide avec la révolution industrielle, c'est-à-dire une transition d'une économie majoritairement agricole à une économie centrée sur l'industrie, les biens manufacturés. Alors, cette croissance économique s'est accompagnée d'un décollage démographique également. On a eu, en fait, une flambée démographique, je ne sais plus quel est le terme exact. Oui, mais je cherche un autre terme, une explosion démographique, c'est ça. On a eu, voilà, donc en fait, le décollage, on va voir que le décollage s'accompagne, en fait, d'une augmentation très forte de la population. avant le décollage, on avait une natalité, une mortalité très élevée, mais au total, on avait, au total, l'excédent, en fait, augmentait très peu, quoi. Et par exemple, en l'an 1000, la population mondiale est inférieure à l'actuelle population des États-Unis, c'est vous dire. Donc, et vraiment, le décollage, c'est vraiment avec la révolution industrielle et le décollage de la croissance que vous avez un décollage de la démographie. D'accord ? Voilà. Alors, je vais juste vous dire quelque chose sur le décollage. Juste vous dire, avant qu'on arrive à la théorie, je veux juste vous donner un élément. Je vous ai déjà donné... Ici, je vous ai donné au tableau, je vous ai dessiné l'évolution du PIB, et maintenant, ici, je représente l'évolution de la population mondiale, d'accord ? Et vous voyez que entre 10 000 avant Jésus-Christ et l'an 0, la population augmente de 0,04 par an, soit 1% tous les 25 ans. Entre l'an 0 et l'an 1800, la population augmente de 0,09 par an. Entre 1800 et 1900, elle augmente de 0,6, voyez, et entre 1900 et 1950, de 0,9, et entre 1950 et 2000, en moyenne, de 1,8% par an. Vous voyez, vous avez vraiment un décollage, et si vous regardez l'évolution de la population, vous voyez, ça commence un petit peu à vous voyez, les années, mais vraiment, il y a une accélération de la croissance démographique, qui est parallèle au décollage du PIB. Vous voyez, ces deux choses sont... Donc, c'est-à-dire qu'on veut comprendre, on voudrait un modèle qui vous dise comment on peut expliquer que pendant si longtemps, on a eu une quasi-stagnation du PIB et une quasi-stagnation de la population. On voudrait un modèle qui vous permet de comprendre les deux. Et donc, pour essayer de comprendre ça, je vais maintenant passer au paradigme malthusien, le modèle de Malthus. D'accord ? Donc, au début du 19e siècle, la baisse de la mortalité infantile a permis une hausse significative de l'espérance de vie, passant de 26 ans à 66 ans, et la population a crû fortement. Cette population s'est concentrée dans des centres urbains, induisant une chute de la part de la population rurale, qui passe de 90 à 36% entre 1800 et 1975. D'accord ? L'essor démographique s'est ensuite ralenti sous l'effet d'une baisse de la natalité. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la population se met à exploser, et puis ensuite, il va y avoir, à des stades plus avancés, un ralentissement de la croissance de la démographie, qui est dû en grande partie à une baisse de la natalité. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette baisse de la natalité, d'accord ? Et donc, la croissance démographique a été plus lente que celle du PIB mondial, ce qui explique la hausse du PIB par habitant. Et ça, ça va nous amener avec à la première explication du décollage. C'est qu'en fait, les gens disent, voilà, ce qui est passé, c'est qu'il y a eu accélération de la croissance du PIB. Au début, la population a suivi la dynamique du PIB, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi accélération de la population, ce qui fait que le PIB par tête ne change pas beaucoup. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une transition démographique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la natalité va se mettre à baisser, et comme le PIB continue d'augmenter, eh bien, le PIB par tête va augmenter forcément. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi il y a cette transition démographique, d'accord ? Et pourquoi avant, tu es toujours dans cette trappe où le PIB par tête ne bouge pas, quoi. D'accord. Donc, c'est ça que je veux. Donc, je vous ai donné un peu des éléments pour vous donner un peu, comme ça, l'envie de... Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous présenter le modèle malthusien. D'accord ? Alors, l'essor démographique de l'humanité doit beaucoup à la capacité des espèces humaines à se multiplier très rapidement. Pour illustrer cette capacité, les démographes prennent habituellement deux exemples, les utérites et les colons français au Canada. Alors, les utérites, c'est un mouvement religieux anabaptiste, alors là pour moi c'est, voilà, là je bulle, pacifiste et communautaire né au XVIe siècle en Moravie sous l'impulsion du pasteur tyrolien Jacob Uther, voilà. Alors, ils vont fuir les persécutions à travers l'Europe jusqu'en Russie. Ils émigrent en 1874 aux États-Unis, dans le Dakota et au Canada, pour fuir le service militaire imposé par le tsar. Le mode de vie des communautés utérites favorise une fertilité élevée. Mariage jeune, refus d'utiliser la contraception. D'accord, voilà. En parallèle, les utérites sont en bonne santé et bien nourris, ce qui leur permet d'atteindre un taux de mortalité comparable au reste de la population américaine. Voilà, donc la conjonction de ces deux phénomènes provoque une hausse exponentielle de la population utérite. Ils sont 215 en 1880, ils sont 5450 en 1960. Sur la période, la population utérite croît en moyenne de 4,1%. Ça signifie que le nombre d'utérites double environ tous les 17 ans. Arrivés au Québec, alors les colons français au Canada, arrivés au Québec au XVIIe siècle, il y a 3380 Français qui ont déjà émigré au Québec. C'est pas beaucoup quand même, hein. Tu vas maintenant au Québec, il y a des autoroutes partout, c'est énorme. J'ai déjà allé au Canada. C'est hein, 3000 personnes. Voilà. En 1960, tu as 2,5 millions de francophones au Canada, dont peu sont issus de vagues d'immigration postérieures à 1680. D'accord ? Alors là, j'ai fait de bêtises. En 1950, 68% du patrimoine génétique de la population est attribuable aux premiers colons. C'est très endogame, hein, quand même. Voilà. Alors maintenant, je vais... Donc voilà un petit peu voilà, quelques éléments sur la population dont je voulais parler. Alors, je vais maintenant développer le modèle de Malthus, d'accord ? Donc là, il va falloir qu'on s'accroche un petit peu. Hein, je vais vous demander un peu d'effort. Malthus propose une explication. Il propose une explication de pourquoi il y a eu cette longue stagnation du PIB et en même temps cette longue stagnation de la population. D'accord ? Donc je veux expliquer les deux en même temps, stagnation du PIB par habitant ou du PIB et stagnation de la population. Alors, évidemment, si j'ai stagnation du PIB par habitant et stagnation de la population, j'ai forcément stagnation du PIB tout court. Hein, on est d'accord ? Puisque le PIB par habitant, c'est le ratio du PIB et de la population. Voilà, donc, et l'ouvrage, c'est ça, An Essay on Principle of Population. Ah, voilà. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai donné mon portable à ma fille, voilà, qui est en train de me le réparer. Ça fait ? Génial. Oh, merci beaucoup. Alors, l'explication de Malthus repose sur l'hypothèse. Alors, voilà. Donc, on va maintenant vraiment essayer de comprendre le modèle de Malthus. Alors, le modèle de Malthus... Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que la production agricole résulte de la combinaison de travail et de la terre. Donc je produis avec du travail et de la terre. Donc ça, c'est la première chose. C'est deux, en fait, c'est deux relations, d'accord ? Donc la première relation, je vais effacer le tableau là, ou je peux essayer de... Enfin, je vais l'effacer carrément, je peux bien faire ça. Donc la première relation, c'est que... Et je ne vais pas écrire d'équation du tout. Je vais dire que voilà... la première relation de la première chose, l'équation de Malthus, c'est de dire je prends du travail et de la terre, T c'est terre, et ça me donne du PIB. D'accord ? Ça c'est la première chose. D'accord ? Donc ça c'est le. Alors pourquoi je suis là maintenant ? Oui, voilà. D'accord ? Donc voilà. Donc j'essaye d'aller, alors je suis là, je veux arriver là. Donc, alors la chose c'est que si vous voulez, la chose qui va se passer, c'est que je vais vous donner, je dis voilà, ce qui va se passer, c'est que en fait, avec la taille de la population, vous voyez, le produit par tête va baisser. Pourquoi ? Parce que je vais avoir un effet de congestion. Quand la population augmente, eh bien, j'ai de plus en plus de gens qui travaillent sur une quantité de terre donnée, donc ça va baisser le produit. Vous voyez, le produit par tête va baisser à cause de ça. D'accord ? Donc, on a cette relation-là, c'est-à-dire qu'il y a une relation décroissante. Normalement, je devrais dire que quand j'ai davantage de population, L, je devrais avoir Y sur L, qui baisse, voilà. Mais lui, il le représente à l'envers. Je représente le PIB par tête en abscisse et je représente la taille de la population comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a une relation décroissante entre taille de la population et produit par tête. Pourquoi ? Parce que tu as un effet de congestion. Plus la population est nombreuse, moins tu produis par tête, quoi. Voilà. Hein ? Voilà. Ça, c'est le monde de Malthus. C'est la congestion. Donc, tu as cette première relation qui est là, vous voyez, qui est entre la taille de la population et le Y sur L qui est là. Alors, moi, je l'ai représenté dans ce sens-là, mais tu peux le représenter dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le premier élément. D'accord ? Donc, j'ai le revenu par tête qui décroît avec la taille de la population. Plus la population est nombreuse, plus la pression sur les ressources limitées, qui sont la terre, est forte. Donc, c'est-à-dire plus la congestion est grande, et donc plus le produit par tête est faible. Est-ce que tout le monde est avec moi là ? Vous êtes tous avec moi là, et pas de bain qui se lève ? Si ? Vous êtes avec moi ? D'accord. J'avais dans une classe à Londres un étudiant, il faisait comme ça, et je n'arrivais jamais à savoir si ça voulait dire oui ou si ça voulait dire non. Voilà, alors ça c'est la première relation, d'accord ? Je vais vous la dessiner comme ça. Donc je vais vous dessiner, voilà, je fais ici Y sur L, et là c'est le L. Plus la population est élevée, plus le Y sur L va être bas, parce que j'ai un effet de congestion, parce qu'on est plus nombreux à travailler sur une quantité de terre qui est finie. On a des ressources limitées, d'accord ? Maintenant, on a une deuxième relation. Elle vous dit comment la population va augmenter. Alors ça, c'est l'histoire du petit pousset, un petit peu, voyez ? L'histoire du petit pousset, c'est que quand les choses vont bien, on garde des enfants à la maison. Quand ça va mal, on les abandonne dans la forêt, quoi. Alors, il y a la version scandinave qui, avant la flexisécurité, hein, la version scandinave, c'est Hansel et Gretel, quoi. Donc, vous avez dû lire l'un et ou l'autre, d'accord ? Donc là, on est dans le monde d'Hansel et Gretel, en fait. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, là, on a la croissance de la population. J'appelle ça la croissance de la population, GL. Et là, elle est positive, et là, elle est négative. Et en gros, là, je représente à nouveau le Y sur L. Et l'idée, c'est de dire, eh bien, elle va être comme ça. C'est-à-dire que si le Y sur L est trop petit, je vais avoir une croissance de la population négative. Et si ça devient assez grand, la croissance de la population va être positive. C'est-à-dire que si en fait, en gros, dans le modèle de Malthus, si le produit par tête, si on est dans un pays riche, on fait beaucoup d'enfants, et si dans un pays pauvre, on en fait moins, et où ils meurent, quoi. Voilà, hein, où il y a de la mortalité, quoi. Donc c'est ça le monde où on les abandonne dans la forêt, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le monde de Malthus, d'accord ? Donc voilà. Donc on a et ce qui est intéressant, c'est que donc Malthus, il a à la fois une théorie de la croissance du PIB par tête et il a une théorie de la croissance de la population. Il vous dit que la croissance de la population, elle est endogène et elle dépend du niveau de vie. Si vous êtes dans un pays où le Y sur L est élevé, vous allez faire plus d'enfants et où ils vont vivre plus longtemps et donc la population va croître. Si vous êtes dans un pays où le PIB par tête est faible, eh bien, on est mal nourri, on n'a pas les moyens et la population va baisser. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le monde de Malthus. Et vous voyez immédiatement que l'équilibre stationnaire, c'est l'équilibre où il n'y a plus du tout de croissance de la population. Et à ce moment-là, ça vous donne ce niveau de Y sur L. Et à ce moment-là, je prends l'ascenseur, vous voyez, je monte là, je prends l'ascenseur et ça me donne la population, et elle est constante. Vous voyez que dans l'équilibre de Malthus, j'ai en fait une population constante. Pourquoi ? Parce que si tout d'un coup, j'ai, par exemple, je m'écarte un peu de cet équilibre-là, par exemple, mon Y sur L, mon L augmente au-dessus de L, vous voyez, j'ai une population plus grande, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, ma population augmente, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de monde, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le Y sur L va baisser par rapport à ce niveau, mais ça veut dire que du coup, comme le Y sur L est plus petit, eh bien, la croissance de la population va être négative. Et ça va me ramener à l'équilibre, vous voyez ? Donc le modèle de Malthus, c'est assez génial parce que c'est tout simple et vous avez un équilibre très stable. L'équilibre où le niveau de Y sur L tel que la croissance de la population est nulle, c'est l'équilibre. Et si tout d'un coup vous vous écartez de là parce que tout d'un coup la population augmente, eh bien si la population augmente, ça ne dure jamais longtemps parce que si la population augmente par rapport à l'état stationnaire, ça veut dire que le produit par tête va baisser par rapport à l'état stationnaire, ça veut dire donc que vous allez dans une zone où la croissance de la population va être négative jusqu'à ce que vous reveniez à l'équilibre initial. Vous avez compris ça, comment ça marche ? Mais vous êtes formidable. Vous êtes formidable. C'est génial. Bon, donc voilà, ça c'est l'équilibre de Malthus, d'accord ? Vous voyez le modèle très simple, et vous le voyez, c'est bien expliqué là. Vous voyez la croissance zéro, c'est le niveau stationnaire. Vous prenez l'ascenseur, vous arrivez là, et voilà le L stationnaire. Si tout d'un coup vous montiez là, et bien si tout d'un coup la population augmentait au-dessus de ce niveau de population L, steady, SS, c'est pour état stationnaire, steady state en anglais, eh bien tout d'un coup, ça voudrait dire que la croissance de la population L serait négative jusqu'à ce que la croissance de la population serait négative jusqu'à ce que le L redescende à son niveau stationnaire. D'accord ? Voilà, ça c'est le modèle de Malthus. Alors, maintenant, à partir du modèle de Malthus, il va prédire donc un équilibre, c'est-à-dire une situation où les différentes forces qui entrent en jeu se neutralisent, et donc on aura, eh bien, au total, un produit par tête constant et une population constante. Vous voyez comme c'est tout bête, hein ? Donc c'est quand même, les gens adorent, vous avez un modèle, je vous fais deux courbes et je vous explique 1800 ans d'histoire, c'est quand même pas mal, hein, qui fait mieux, hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le modèle malthusien, d'accord ? Donc, donc c'est le niveau où j'ai une croissance de population nulle, un PIB par tête au niveau tel que la croissance de la population est nulle, et donc la population, elle est équilibrée au niveau exactement qui est ce LSS qui est là, voilà, hein. Elle est stationnaire. Donc ça, vous avez tout compris, vous êtes formidables, on est déjà là. Et maintenant, on va s'amuser à faire des changements. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. Ah, c'est merveilleux de boire de l'eau. C'est super merveilleux. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, ben voilà. Normalement, dans un modèle, vous vous dites, dans n'importe quel modèle de croissance, vous vous dites, si j'augmente la productivité, je vais générer de la croissance. Eh bien, pas dans le modèle malthusien. C'est diabolique, cette trappe malthusienne. Elle a l'air toute bête, telle que je l'ai faite, là. Elle est diabolique. Pourquoi elle est diabolique ? Pour la raison suivante. Supposez, je vais le dessiner en même temps, hein. Donc, je pars de cet état stationnaire, ici, hein. Le LSS et le Y sur L, qui est le Y, petit Y, SS. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, maintenant, voilà. Je vais maintenant supposer que pour une certaine raison, eh bien, je fais une découverte. Par exemple, la pomme de terre en Irlande. Qui découvre la pomme de terre. Vous pensez que ça a toujours existé ? Ben non, il y a une époque, les pauvres Irlandais n'avaient pas de pomme de terre. Voilà. Ou bien la découverte de l'irrigation. Donc il y a du progrès technique, ça arrive, des inventions. Alors j'ai du progrès technique. Qu'est-ce que ça va faire le progrès technique ? Ça va faire que pour un certain niveau de L, je peux avoir plus de Y sur L. C'est ça, le progrès technique. Le progrès technique, ça me met cette courbe ici. Ça veut dire que pour un certain niveau de force de travail, avec la Terre, je peux faire plus. Parce que, en gros, là, je produis avec du travail, de la Terre, et un coefficient de progrès technique. Si je fais le progrès technique, ça veut dire que simplement pour un certain niveau de travail, sur la même Terre, je fais mieux. D'accord ? Donc, ma courbe, elle se déplace comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, à court terme, ce qui va se passer, c'est que à court terme, eh bien, vous vous dites, bah, à court terme, ça va être sympa, parce que à court terme, je vais augmenter mon Y sur L, à court terme, d'accord ? Donc, à court terme, c'est un bon effet. Effectivement, à court terme, c'est ce que vous pensez. J'augmente la productivité, eh bien, mon produit par tête va augmenter. Mais dans le modèle malthusien, ça ne va pas se passer comme ça à long terme. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où votre Y sur L est là, ça veut dire que vous allez dans une zone où vous allez augmenter la population. C'est le petit pousset, quoi. Je fais davantage d'enfants. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à long terme, eh bien, les gens vont faire davantage d'enfants. Et ce qui va se passer, simplement, c'est qu'on va faire davantage d'enfants jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc, la courbe, elle sera toujours là. Mais la population, c'est la population qui va augmenter. Ça va être le L star SS. Voyez, c'est-à-dire que au total, eh bien, on va revenir au niveau de L tel que Y sur L égale et correspond à la croissance zéro, mais évidemment avec la nouvelle courbe, ce niveau-là, il est là au lieu d'être là. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura gagné à long terme, c'est que la population va augmenter. Donc dans le modèle malthusien, toute augmentation, tout progrès technique, pour une raison ou une autre, l'irrigation, la pomme de terre, le machin, à court terme, ça vous donne un niveau de vie qui augmente, mais à long terme, vous l'absorbez en faisant plus d'enfants. Et donc, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous ramener au même niveau de produits par tête à long terme, mais simplement, la population aura augmenté. C'est-à-dire qu'à court terme, oui, vous augmentez la croissance, mais à long terme, vous ne l'augmentez pas. Donc, c'est diabolique, cette trappe, non ? Trouvez pas ? Donc, on n'en sort jamais, quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer la croissance du PIB par tête. D'accord ? Voilà, donc ce que je dis là, une croissance économique durable, une croissance du PIB par tête durable, c'est ça que je veux dire, est impossible dans le modèle de Malthus, parce que toute hausse du PIB par tête, vous voyez, tout progrès technique qui augmente le PIB par tête à court terme entraîne une hausse de la population qui ramène le PIB par tête au niveau de subsistance, c'est-à-dire au niveau exactement où la population, la croissance de la population est nulle. D'accord ? Et donc tout ce qui se passe, c'est que la population va augmenter, mais vous n'aurez pas accru votre PIB par tête. À court terme, ça augmente le PIB par tête, et à long terme, tout est absorbé par la croissance populaire. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, d'accord, voilà. Alors, plus précisément, je le redis à nouveau là, parce que j'aime bien faire par cercle ou par spirale, d'accord, une hausse du PIB par tête suite à un progrès technique va augmenter donc votre Y sur L, votre niveau de vie. Cette hausse du niveau de vie pousse les familles à avoir plus d'enfants parce qu'elles ont désormais les moyens de les nourrir, d'accord. Et cette hausse de la population va diluer les gains de Y sur L liés à la hausse de la productivité et l'économie va atteindre un nouvel équilibre. La population aura augmenté, mais le revenu par tête, il sera exactement au même niveau qui est ce niveau YSS. On n'en sort jamais, quoi. D'accord. Ça, c'est la trappe malthusienne. Donc, si on vous demande la trappe malthusienne, vous savez expliquer ce que c'est que la trappe malthusienne. D'accord ? Bon, alors, on va essayer d'en sortir maintenant de cette trappe malthusienne, d'accord ? Et ça, c'est l'explication que l'on donne pour le fait que pendant près de l'an 0 à l'an 1800, eh bien, ni la population, ni la croissance, ni le PIB augmentent sensiblement. On dit c'est une trappe malthusienne. Et c'est une économie agricole, essentiellement, vous voyez ? D'accord ? Alors, je vais maintenant... j'ai supposé qu'il y avait un progrès technique une fois. Je découvre une fois la pomme de terre. Mais c'est la même... Ce qui se passerait, c'est que je dis s'il y a une fois une augmentation de la productivité, ça se traduit par une augmentation d'une fois de la population. Je passe de LSS à L star SS. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si j'ai une augmentation continue mais faible du progrès technique ? Eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas changer le Y sur L. Tout ce qui va se passer, c'est que ça va faire une croissance continue de la population. Donc, dans ce modèle-là, si au lieu d'avoir une augmentation d'une seule fois de la productivité, tu vois, de la productivité, j'ai une augmentation continue mais faible de la productivité, elle va être entièrement absorbée par la population. Et tout ce que je vais voir, c'est que la population augmente légèrement, mais que le PIB par tête n'a pas changé. Exactement ce qu'on a observé dans les données. On a observé que la population augmentait un petit peu, mais que le PIB par tête n'augmentait quasiment pas. Et là, on est toujours dans la période pré-industrielle, d'accord ? Vous êtes toujours vivant avec moi ? D'accord, super. Mais vous êtes fantastique. Oh, merveilleux. Bon, alors maintenant, d'accord. Alors, cette théorie décrit relativement bien la réalité avant le décollage. Une faible hausse de la population qui s'explique par une hausse tout aussi faible de la productivité grâce à un progrès technique lent, ayant pour conséquence une relative stagnation du revenu par tête. Voilà, on est là, d'accord ? Donc, en l'an 1000, la Chine était technologiquement plus avancée, mais sa densité de population élevée la maintenait à un niveau de PIB par tête similaire à l'Europe. La Chine ne décollait pas de son niveau de subsistance. D'accord ? À partir de 1750, la pomme de terre importée d'Amérique devient la culture principale en Irlande. Les rendements sont 2 à 3 fois ceux des céréales. En un siècle, la population irlandaise va tripler. Tout va être absorbé par la croissance de la population irlandaise. On est en pleine trappe malthusienne. D'accord ? Alors, ce que dit Malthus, c'est qu'il dit qu'il y a un moyen de s'en sortir. Et pourquoi on ne limite pas la fertilité, quoi ? Ça, c'est Malthus, d'accord ? Donc, par exemple, il peut dire... Alors, il dit, évidemment, il y a la restriction liée à un manque de ressources. On sait que si on a moins de Y sur L, il y a moins de fertilité, d'accord ? Mais lui, il pense que pour éviter la pauvreté, si on veut augmenter, le meilleur moyen d'augmenter le Y sur L à long terme, c'est de faire... Vous voyez, lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas le progrès technique. Le seul moyen d'augmenter le Y sur L à long terme, c'est de déplacer cette courbe. Et je l'amène de là à là. Mais pour aller de cette courbe à cette courbe-là, je dois restreindre la fertilité. Donc, c'est Malthus, c'est le monsieur qui vous dit, moi, le seul moyen d'augmenter le Y sur L dans mon monde, c'est de restreindre la fertilité. Parce qu'à ce moment-là, je vais déplacer pas la courbe d'en haut, mais la courbe d'en bas. Et là, ça va vous amener à un Y sur L plus, à un Y sur L d'état stationnaire plus grand. D'accord ? C'est-à-dire que je vais passer de cette courbe à cette courbe. Vous voyez, là, je vais de là à là. Et donc, Malthus, ce qu'il recommande, c'est qu'il dit, c'est pas tellement la productivité qui va nous amener là. C'est pas la croissance de la productivité. C'est la fertilité. Je veux que les gens aient un niveau de vie plus élevé. Le seul moyen, c'est de restreindre la fertilité. Donc, restriction de la fertilité pour éviter la pauvreté pour soi-même, pour sa famille. C'est le propre de l'homme. Et donc, voilà. Et donc, lui, il dit, ce qui sépare les hommes des animaux, c'est que nous, on peut se restreindre. Voilà. D'accord ? Bon, je fais pas de blagues là-dedans. Ouais, pas. Sûrement pas. Alors. La seule façon de sortir de la trappe est donc de pratiquer l'abstinence ou le contrôle des naissances. La baisse de la population entraîne alors une hausse du revenu par tête. Nous pouvant proportionner la nourriture à la population, nous devrions naturellement essayer de proportionner la population à la nourriture. Voilà, ça c'est Malthus. C'est-à-dire qu'au lieu de bouger les courbes en haut, je bouge la courbe en dessous. Là, celle-là. Je vais de là à là, voyez. OK. Alors, il y a eu des travaux empiriques à partir de ça, hein, la validation empirique de la trappe malthusienne. Donc, un premier papier, ça c'est vraiment Mokyr qui recommande. Donc, vous voyez, beaucoup, on suit les reading lists de Mokyr. Vous êtes très mokyrien en fait cette année. Vous voyez, beaucoup de ce que je fais, disons qu'il n'est pas théorique, je m'appuie beaucoup sur les recommandations de Joël Mokyr. Vous êtes très Mokyr. Quand Mokyr va arriver, vous serez vraiment en plein dans ce qu'il a fait. Voilà, ce qui est très bien, puisqu'il a le Nobel et tout. Alors, les auteurs de cet article cherche à valider empiriquement la théorie malthusienne selon laquelle les hausses de PIB ne sont qu'au temporaire avant le décollage. D'accord ? Donc, voilà. Ils étudient l'effet du niveau d'avancement technologique d'un pays sur sa population. Il est positif. Une hausse de 1% de la durée depuis la révolution néolithique induit une hausse de 0,83% de la densité de population. La durée, c'est le degré d'avancement technologique approximé par la date du début de la révolution néolithique. Et le PIB, pas d'effet. Donc, ce qui montre, c'est que quand il y a ce progrès technologique, eh bien, ça, vous voyez, là, il y a pratiquement, c'est un one for one, comme on dit, c'est reflété quasiment entièrement dans la population et pas du tout dans le progrès technique, quasiment pas reflété dans le PIB par tête, d'accord. Alors maintenant, on va regarder le décollage. Alors, c'est à l'époque de Malthus que son modèle commence à être mis à mal par le décollage. Ça me rappelle un petit peu Robert Solow qui vous dit en 1995, je vois des ordinateurs partout sauf dans les statistiques, et juste au moment où il le dit, hop, la croissance se met à décoller, quoi. Donc voilà, c'est toujours... Alors, ironiquement, c'est précisément à l'époque donc, de Malthus que son modèle commence à souffrir un peu, hein, et être mis à mal par l'évidence empirique, parce qu'à ce moment-là, se produit le décollage. Le revenu par tête se met à augmenter en même temps que la population, au lieu d'une relation négative entre les deux. Vous voyez ici, quand la population augmente, le revenu par tête devrait diminuer si je suis dans un monde malthusien. La relation entre population et à cause de la congestion. Et on voit que non. On voit que on n'a pas une relation vraiment négative. Donc il se passe quelque chose. Et puis par ailleurs, le taux de croissance de la population diminue désormais avec le niveau de revenu, inversant la relation malthusienne. C'est-à-dire que, alors que Malthus est dans un monde où plus on a de richesse, plus on fait d'enfants, eh bien là, on a l'impression qu'on observe quelque chose qui fait que quand on augmente le revenu, on a moins d'enfants. Ça, c'est pas Malthus, d'accord ? Donc on veut comprendre pourquoi on passe à un monde comme celui-là. Pourquoi on passe du monde petit pousset, Hansel et Gretel, à un monde où non seulement tu as un revenu par tête qui augmente en même temps que la population, et pourquoi tu as un taux de croissance de la population qui diminue au lieu d'augmenter avec le revenu par tête, d'accord ? Alors, cette rupture qui touche l'Europe et progressivement le reste du monde interroge pourquoi le décollage a-t-il lieu précisément en début du XIXe siècle ? Pourquoi il a lieu en Europe ? Est-ce que le décollage démographique simultané n'est qu'une coïncidence ou y a-t-il une relation entre le décollage du PIB par tête et le décollage de la population, de la démographie ? Là, je vous perds, là. Je vous perds. D'accord ? Donc, c'est la question qu'on pose, c'est-à-dire que on a l'impression que tout d'un coup, eh bien, y a, voilà, on veut comprendre, il y a un décollage, ce que Malthus ne prévoit pas, pourquoi c'est en Europe, et pourquoi on observe en même temps un décollage démographique, en même temps que le décollage du PIB par tête. D'accord ? Donc ça, je vais essayer de comprendre un peu mieux pourquoi. D'accord ? Alors, c'est intéressant que, contrairement aux recommandations du malthusianisme, dans la plupart des cas, le décollage économique a précédé ou a été concomitant à la baisse de la fertilité. Donc c'est intéressant quand même. Donc de nouvelles théories ont été élaborées pour expliquer le décollage. Il y a une approche technologique, une approche démographique et, je verrai après, l'approche institutionnelle qui est celle que Bokir privilégie. D'accord ? Ok ? Alors je vais vous dire, je vais vous parler donc de ces approches. Alors le décollage économique coïncide avec des sociétés qui évoluent d'une économie agricole vers une économie industrielle. Cette transition va permettre d'échapper à la contrainte que représente le facteur fixe. Ça c'est l'explication technologique. Vous voyez, c'est que l'explication technologique, c'est de dire, ben voilà, on produisait avant, l'économie agricole, c'est du travail qui produit avec de la terre. Et plus il y a du monde, plus il y a de la congestion, parce que la terre, elle est fixe. Mais dans l'économie post-agricole, je produis avec du travail du capital. Mais le capital, lui, on le produit lui-même. Le capital, c'est de l'investissement qui provient de l'épargne, qui provient du revenu. Donc je suis moins contraint avec le capital que je le suis avec la terre. Donc peut-être qu'il y a un changement de technologie. Au lieu de dire je produis avec du travail et de la terre, je produis avec du travail et du capital. Mais le capital, je le produis moi-même. Donc j'échappe à la contrainte de congestion quelque part, d'accord ? Ça, c'est un peu une première vision des choses. Donc, on dit, voilà, ben, donc cette transition, comme je dis, d'une économie où je produis avec du travail et de la terre, je passe à une économie où je produis avec du travail et du capital. Ça permet d'échapper à la contrainte que représente un capital fixe comme la terre, d'accord ? Donc, l'effet négatif de la croissance de population sur le PIB par tête disparaît avant... quand j'augmentais la population, je réduisais le PIB par tête. Peut-être que maintenant, comme j'échappe à la terre, cette relation, elle devient moins évidente, d'accord ? Alors, et en fait, à partir d'un certain niveau, ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'un certain niveau de population, l'excédent de travailleurs par rapport à la terre disponible va produire un exode rural qui va alimenter le secteur industriel. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours un secteur agricole, mais les gens peuvent émigrer, comme maintenant il y a un secteur industriel, les gens ont la possibilité de quitter les terres qui sont congestionnées pour aller travailler sur des technologies où ils vont travailler avec du capital au lieu de travailler avec de la terre. Il y a cette transition-là de l'économie agricole à une économie qui est en partie une économie manufacturière. D'accord ? Alors, évidemment, il y a la question, pourquoi ? Alors, on va essayer de comprendre... la théorie voilà, donc Galor-Weil, c'est la théorie démographique. Alors, on va essayer de comprendre comment je sors de la trappe. Alors, la première explication pour sortir de la trappe, c'est mes copains Galor-Weil et Michael Kremer. Michael Kremer, lui, il a eu le prix Nobel avec Esther Duflo et Abhijit Banerjee, mais plus pour des travaux en développement, et il l'a eu en 2019, donc il y a 6 ans, d'accord ? Voilà. Et Galor et Weil sont des collègues qui sont, alors, Weil, il est entre, ils sont à Brown University, c'est à Providence. Vous êtes déjà allé à Providence, Rhode Island ? Non, toi, c'est bon. Voilà. Et c'était assez drôle parce que c'est une ville très intéressante, il y a l'université de Brown, mais il y avait le maire, tu avais la photo du maire dans la gare de Providence, et le maire était en prison à ce moment-là. Oui, enfin, c'est une ville tout à fait respectable quand même. Il y a Brown quand même. Hein. Tu avais Brown, mais le maire était en taule. Bon. Alors, on explique le décollage. En fait, il va se passer la chose suivante. Maintenant, vous allez bien m'écouter. Vous allez bien m'écouter. Quelle est l'histoire du décollage de Galor et Weil ? L'histoire du décollage de Galor et Weil, c'est la chose suivante. Ils disent, voilà, il y a eu deux choses qui se sont passées qui n'étaient pas dans le monde malthusien. La première chose, c'est que tout d'un coup, il y a eu de l'innovation, d'une certaine manière. Pourquoi il y a eu de l'innovation ? Parce qu'on a eu la population... Le fait qu'on ait une population plus nombreuse a fait qu'on a beaucoup interagi entre nous. Les centres urbains se sont créés et ça crée des idées. Et ça a fait naître de la croissance, voilà, par l'interaction entre les gens. Donc il y a déjà la première chose, c'est en fait un effet de taille de marché. Effet de taille de marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la population augmente, ça veut dire que le taux de croissance va augmenter, quoi. Le taux de croissance du produit par tête. Parce que quelque part, eh bien, je me mets à innover. J'innove plus. Donc ils introduisent de l'innovation qu'il n'y a pas dans Malthus. Et ils disent, voilà, à partir du moment où j'ai une économie plus grosse, il y a des rentes à l'innovation plus grande. Et donc, et où on va davantage brainstormer entre nous, et donc ça va stimuler le progrès technique. C'est-à-dire que quelque part, alors que tout à l'heure je traitais le progrès technique comme exogène, j'endogénéise le progrès technique et je dis, comme j'ai une population plus nombreuse, eh bien j'ai un progrès technique qui s'accélère. Mais ça ne suffit pas, parce que ça vous dit qu'évidemment, il va y avoir une accélération du taux de croissance de Y sur L. Mais ce n'est pas suffisant, ça, parce que si je suis dans un monde malthusien, eh bien, purement malthusien, si j'augmente Y sur L, j'accélère la logique petit pousset. C'est-à-dire que du coup, eh bien, je vais faire beaucoup plus d'enfants encore, et ça va absorber la croissance de Y sur L. Donc si je n'avais que ça, je dirais, il y a une accélération de la croissance du PIB par tête, mais à ce moment-là, ça va être absorbé entièrement. Et ce que je vais observer, c'est que, en fait, ça va conduire à une accélération de la croissance démographique. D'accord ? Donc, ça, à terme, le produit par tête ne va pas augmenter. Tout ce qui va se passer, c'est que j'aurai besoin d'une croissance de population accélérée pour absorber une croissance du PIB par tête accélérée. Si je n'ai que ça, ça ne suffit pas. Il me faut autre chose. Et là est le truc. Le autre chose, c'est la transition démographique. C'est la transition démographique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de transition démographique ? L'effet de transition démographique, c'est la chose suivante. Et ça, c'est le truc très important. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, à partir du moment où j'ai davantage de progrès technique, vous voyez, j'accélère l'innovation, le progrès technique accéléré, hein, ça veut dire progrès technique accéléré. À partir du moment où j'ai un produit technique accéléré, eh bien, j'ai besoin que mes enfants étudient davantage. Et donc, vous êtes dans la position de la personne qui doit mettre vos enfants à l'école ou au collège. Alors, évidemment, chez nous, c'est gratuit, mais voilà. Et donc, on doit payer l'éducation des enfants. Et à ce moment-là, on décide, on dit, waouh, j'ai un arbitrage entre le nombre d'enfants et le niveau d'études. Je ne peux pas payer le collège à 10 enfants comme je peux payer pour 4, tu vois. Et donc, leur idée, c'est de dire, comme j'ai un progrès technique plus rapide, j'ai besoin de davantage de niveaux d'éducation pour rattraper ce progrès technique. Et ça va influer mes décisions de fertilité. C'est-à-dire que je vais décider d'avoir moins d'enfants. Et à ce moment-là, comme vous avez une accélération, de la croissance du PIB, mais vous avez une décélération de la croissance de la population, eh bien, le produit par tête va durablement augmenter. Vous avez compris le raisonnement ? C'est la conjonction de l'effet de taille de marché qui accélère le progrès technique et d'un effet de fertilité endogène où vous dites « je choisis la qualité contre la quantité ». Et c'est cette conjonction-là qui vous sort de cette foutue trappe malthusienne. Voilà. D'accord ? C'est sympa, c'est assez cool comme histoire, non ? Vous aimez ? Ça vous plaît ? Ben attendez, voilà, mais déjà vous me critiquez, ben c'est ce que je veux. C'est bien, mais j'adore que vous réagissiez comme ça. Mais non, mais là c'est pas bon, mais là c'est pas juste. Mais c'est ce que je veux justement. Venez, 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 venez critiquer. Mais en tout cas, c'est très attrayant, quoi. Fallait y penser, quoi. C'est malin, quoi. Hein ? Voilà. Donc... Et donc, voilà. Donc, l'effet d'échelle, tu les vois. Donc, je vais détailler les deux effets, n'est-ce pas ? L'effet d'échelle, le progrès technique s'est accéléré en parallèle à la croissance de la population mondiale. Le rythme des innovations majeures est devenu bien plus rapide depuis la révolution industrielle. D'accord ? Et sans l'effet de transition démographique, évidemment, l'effet d'échelle entraînerait une explosion à la fois du PIB et de la population sans décollage du PIB par tête. Mais vous avez la transition démographique. C'est-à-dire, d'abord, il y a une transition... Alors, si je veux regarder en détail, moi, j'ai dit moins d'enfants, mais en fait, si je veux détailler, il faut que je regarde le côté mortalité et le côté fertilité. Eh bien, d'abord, la mortalité chute. Alors, la mortalité chute, ça, c'est plutôt pas bon. Ça vous fait exploser la population. Hein ?
la mortalité va chuter parce que, eh bien, on invente les égouts, on réduit, il y a tout ce qui se fait que la mortalité va chuter, mais vous allez avoir une transition de la fertilité qui va chuter à son tour. Parce que si ce n'était que la mortalité qui chute, évidemment, ça ne nous aide pas. On va avoir encore plus une explosion démographique, d'accord ? Donc, on a vraiment besoin de la fertilité qui chute, d'accord ? Alors, voilà. Alors, le décalage temporel entre les deux baisses entraîne une hausse rapide de la population. Donc, au début, vous avez une explosion démographique parce que la mortalité chute avant la fertilité. Mais à un moment donné, la chute de la fertilité va faire que vous allez pouvoir décoller le produit par tête. D'accord ? Alors, on mesure la mortalité à partir de l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire du nombre d'années moyens que peut espérer vivre un nouveau-né. Le développement économique s'est accompagné d'une hausse de l'espérance de vie pour trois raisons principales. Une amélioration du niveau de vie, quantité et qualité de nourriture, accès au logement, lavage plus fréquent des vêtements, une amélioration des politiques de santé, accès à l'eau potable, assèchement des marécages et le développement des médicaments contre un certain nombre de maladies, mais ça, évidemment, ça vient plus tard, d'accord ? Dans les pays en développement, la hausse de l'espérance de vie a été particulièrement rapide, surtout depuis les années 30. En Inde, on est passé de 26 ans d'espérance de vie de 26,9 ans en 1930 à 55,6 ans en 1980, en 50 ans. Alors qu'il avait fallu, pour passer à peu près de les trucs équivalents en France, vous voyez, de 27,9 à 56,7, il avait fallu 175 ans. Donc évidemment, les vaccins, les médicaments, la pénicilline, tout ça, ça a aidé. Évidemment, ça a fait qu'il y a eu un rattrapage démographique, un rattrapage en termes d'espérance de vie incroyable des pays comme l'Inde par rapport à des pays développés. D'accord ? Et puis également, ce qu'il y a, c'est que... Alors, l'Inde atteint 55,6 ans d'espérance de vie en 80. Son PIB par tête est de 1239 dollars. La France n'a atteint les 56,7 ans qu'avec un PIB par tête beaucoup plus qu'un PIB par tête de 4998 dollars. Donc, l'Inde atteint ça beaucoup plus tôt, quoi. C'est-à-dire que l'Inde, en fait, oui, c'est ça. L'Inde atteint. Oh là là, j'arrive pas. Je suis vraiment pas bon là. L'Inde atteint une espérance de vie élevée à un niveau de PIB inférieur à celui qui a permis à la France de l'atteindre. D'accord ? Bon, alors, voilà. Donc, maintenant, ces différences pourraient s'expliquer par le fait que les facteurs de baisse de mortalité sont entrés en action simultanément dans les pays en développement, alors qu'ils sont entrés en jeu successivement dans les pays développés. Donc, 18e, 19e siècle, début 19e siècle, progrès dans l'apport nutritionnel, deuxième moitié du 19e, création de réseaux d'égouts et d'eau potable, 20e siècle, essor des traitements médicaux. Évidemment, en Inde, ils ont eu accès à tout ça en même temps, tu comprends. Donc, ça explique pourquoi ils ont pu atteindre les espérances de vie à des niveaux de PIB bien inférieurs. Ok, ça c'est sur la mortalité, mais maintenant la fertilité. Alors, la fertilité, on mesure ça à partir du taux de fécondité, le nombre d'enfants qu'une femme a au cours de sa vie et si sa fertilité suit la moyenne actuelle dans chaque tranche d'âge. La transition de la fertilité est plus complexe à expliquer que celle de la mortalité. Si les enfants sont désirables, pourquoi la hausse du niveau de vie ne s'accompagne-t-elle pas d'une hausse du nombre de leur nombre, au même titre qu'elle s'accompagne d'une hausse des dépenses alimentaires ou de santé ? Alors, avant même la transition démographique, plusieurs facteurs ont contribué à réduire la fertilité. D'abord, des méthodes de contraception, papyrus de Kaoun dans l'Égypte antique, ça je ne savais pas, condamné dans la Bible, traités médicaux grecs, s'il y a des spécialistes de l'Égypte, là. Mes parents sont égyptiens, mais bon, c'est pas très bien. Infanticide, abandon des enfants illégitimes, Grèce antique ou des enfants surnuméraires, donc ça c'est le petit pousset, d'accord ? Mariage tardif, notamment en Europe du Nord et de l'Ouest, allaitement prolongé. Donc voilà, il y a différentes manières de réduire la fertilité, d'accord ? Alors, en Europe, à l'ouest d'une ligne de Saint-Pétersbourg-Trieste, à partir du XIVe siècle, l'âge moyen des femmes lors de leur mariage recule. En Angleterre, il atteint 25 ans au XVIIe siècle. La proportion de femmes qui ne se marieront jamais augmente également. Cela entraîne une diminution de la fertilité de 25 à 40%. Alors, l'explication au mariage tardif, deux facteurs permettent d'expliquer ce changement. La doctrine catholique du mariage par consentement, développée vers 1114 par Gratien dans son décretum, ou la peste noire, baisse de la population, qui implique une hausse du ratio terre-travail, encourage l'élevage, plus intensif que les céréales, où le travail féminin a un avantage comparatif, et donc implique hausse de l'emploi féminin et sur des contrats exigeant le célibat. Enfin, c'est intéressant de voir tous ces éléments explicatifs de l'évolution de la démographie. L'article s'intéresse... Alors, on peut également dire il y a l'effet de la peste noire, évidemment, et on regarde l'effet de la peste noire en comparant aux autres zones où l'activité pastorale est importante. Un grand nombre de villages médiévaux ont été désertés car décimés par la peste. Dans les deux cas, l'âge moyen au mariage des femmes est plus élevé. En Angleterre, les auteurs estiment que la peste noire est à l'origine d'un recul de 4 ans des mariages. Voilà. Alors, l'Europe de l'Est, alors les mariages tardifs, je continue. L'Europe de l'Est n'est pas concernée par le recul de l'âge lors du mariage. La région est peu touchée par la peste noire. Les rendements céréaliers sont très élevés, ce qui désincite à privilégier l'élevage. La mobilité du travail, la flexibilité des salaires sont très limitées en raison d'un modèle agricole reposant sur le servage. J'en ai de même pour la Chine. La région a été très durement touchée par la peste noire, mais la productivité des céréales est 4 fois plus importante qu'en Angleterre. Cela contribue à expliquer la première divergence qui a vu un essor économique de l'Europe de l'Ouest. Donc eux, ils disent, ben voilà, l'Europe, il y a eu la peste noire qui a retardé les naissances. C'est un phénomène qui s'est produit en Europe de l'Ouest, c'est moins produit en Chine ou c'est moins produit en Europe de l'Est. Et ils essaient d'expliquer ça comme ça. Moi, on ira vers d'autres explications. Mais là, je reste sur l'approche démographique, parce qu'ils essayent quand même d'expliquer pourquoi le décollage a lieu en Europe de l'Ouest et pas ailleurs, d'accord ? Donc eux, c'est purement en termes d'évolution démographique qu'ils essayent d'expliquer ça. Mais nous, on verra qu'on ira vers une approche institutionnelle, d'accord ? Alors, la contraception, au 19e et 20e siècle, les techniques contraceptives s'améliorent considérablement. 1844, invention du procédé de vulcanisation du caoutchouc, qui va grandement accroître la qualité et diminuer les prix des préservatifs. 1909, la création des premiers stérilets. Année 1960, invention de la pilule contraceptive aux États-Unis. Ces améliorations technologiques s'accompagnent d'un changement des mentalités, l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la contraception. Première clinique de planning familial en 1916, créée aux États-Unis. En 1965, la décision Greenwald versus Connecticut de la Cour suprême déclare les lois anti-contraception inconstitutionnelles. Dans les pays en développement, l'essor de la contraception après la Seconde Guerre mondiale a été concomitant de la baisse de la fertilité. Entre le début des années 1960 et 2011, la proportion des couples mariés en âge de procréer qui avaient recours à la contraception est passée de 9 à 61%, ce qui est gigantesque. Mais la baisse de la fertilité pourrait aussi provenir d'autres facteurs, comme en Europe, où elle a lieu avant la diffusion des dispositifs contraceptifs. Donc je continue. Donc on veut regarder l'effet de la contraception sur la fertilité. 141 villages dans le district de Matlab au Bangladesh, entre 1977 et 1996, on fait un random control trial, ce que Esther Duflo aime beaucoup faire, et Michael Kremer et Abhijit Banerjee, qui ont eu le prix Nobel donc en 2019 pour leurs travaux sur les research control trials dans les pays en développement. 50% des villages, ils ont des visites. Donc ça veut dire que c'est quoi les random control trials? C'est que je choisis au hasard des villages que je traite, et puis ceux qui sont des groupes de contrôle. Donc à certains, j'applique telle politique, et puis je choisis des villages identiques où je n'applique pas la politique, et comme ça, je peux voir quel est vraiment l'effet de la politique, en faisant abstraction de différences préexistantes d'un village à l'autre. Donc je fais 50% des villages des visites bi-hebdomadaires des femmes par des agents de santé, les encourageant à employer la contraception, et leur distribuant gratuitement des contraceptifs. L'autre 50%, ça c'est le groupe de traitement, et le 50% des villages accès gratuit aux contraceptifs, mais important coût de déplacement jusqu'à la clinique qui les distribue et nécessité d'être accompagné par un membre de la famille. D'accord ? Donc je compare le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Et qu'est-ce qu'on trouve ? La fertilité diminue rapidement dans les deux groupes de villages, comme dans l'ensemble des districts, mais la fertilité dans les villages traités est en moyenne 15% inférieure à celle des autres villages. Donc la contraception semble avoir joué un rôle non négligeable dans la diminution de la fertilité. D'autres études obtiennent des résultats similaires dans le cas du planning familial. Voilà, il y a différentes études très micro qui essaient de dire voilà l'effet de la fertilité sur la population et de bien isoler voilà en quoi voilà la contraception contribue à la baisse de la fertilité. Souvenez-vous que c'est ça qu'on veut, hein. On veut expliquer pourquoi les gens ont moins d'enfants. On a déjà ça et on veut ça. Tout ça, c'est sur cette partie-là, hein, d'accord ? Alors, on mesure la fertilité désirée à partir d'enquêtes auprès des femmes, leur demandant quelle serait leur taille idéale de famille. Il existe une corrélation très forte entre la fertilité désirée et la fertilité réelle. En moyenne, la fertilité désirée n'est supérieure que de 0,86 enfants par femme à la fertilité désirée à la fertilité réelle. Évidemment, là, il y a un petit typo. D'accord ? Alors, dans le monde malthusien, le niveau fort... Dans le monde malthusien, le fort taux de décès à la naissance et les faibles revenus exerçaient une contrainte sur la fertilité, qui était alors inférieure à la fertilité désirée. C'était ça dans le monde malthusien. Hein, quand tu avais des faibles niveaux de vie, eh bien, faible niveau de vie et eh bien, tu avais et plus le fort taux de décès, ça veut dire que les deux choses contribuaient à réduire la fertilité réelle, qui était inférieure à la fertilité désirée. Le décollage va permettre d'aligner la fertilité désirée et fortalité réelle. Mais la baisse de fertilité désirée ramène rapidement la fertilité réelle à son niveau initial. C'est ça la chose, c'est que peut-être je peux décoller, mais la fertilité désirée va ramener la fertilité réelle à son niveau initial. Alors, on explique généralement la baisse de fertilité désirée par la baisse de mortalité infantile. C'est-à-dire qu'on dit, en gros, j'avais beaucoup d'enfants avant parce que j'en voulais beaucoup, parce que, en fait, beaucoup mouraient. Et je voulais être assuré de mes vieux jours. Je voulais assurer qu'il y a des enfants pouvaient m'aider à cultiver. Donc, j'en faisais beaucoup parce que je savais que j'avais une forte mortalité infantile. Et du coup, ça a augmenté la fertilité désirée. Donc, la baisse de la mortalité infantile, la hausse du nombre d'enfants survivants à l'âge adulte qui diminue l'incitation à avoir un nombre élevé d'enfants comme assurance pour la vieillesse. Là, également, il y a un autre élément qui va réduire la fertilité désirée, c'est la hausse du revenu par tête, l'effet du coût de l'éducation, la hausse du coût d'éducation, est plus importante que dans celui de la hausse des revenus du ménage. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où tu vas avoir une hausse du revenu par tête, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, tu sais, l'éducation, c'est j'ai le choix entre être un an de plus à l'école et un an de produire. Si j'ai un niveau de PIB par tête plus élevé, c'est-à-dire que le coût d'opportunité de l'éducation est plus élevé. Donc, on dit, ben voilà ce qui se passe, c'est que, eh bien, à partir du moment où le revenu par tête va augmenter, ce qui est là, eh bien, on va avoir un coût d'opportunité de l'éducation plus grand, donc on va vouloir avoir moins d'enfants, tu vois. Et c'est comme ça que je fais le lien entre la première partie et la seconde, là. L'effet de la hausse du coût de l'éducation, matérialisé par son coût d'opportunité, donc le salaire féminin, est plus importante que celui de la hausse des revenus du ménage. Et donc ça, c'est des choses qui vont vraiment vous réduire la fertilité, d'accord ? J'essaye de regarder là. Alors, ces explications sont remises en cause par des faits empiriques. La baisse initiale de la mortalité infantile s'est accompagnée d'une hausse de la fertilité, pas d'une baisse. Ce n'est que dans un second temps que la fertilité a décru. Et la baisse de la fertilité a eu lieu dans la même décennie que dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, alors que ceux-ci avaient des revenus différents de PIB par tête. Donc, ces explications sont quand même mises à mal, vous voyez. La demande de capital humain induite par l'industrialisation a un double effet sur la fertilité des couples. Il y a un effet revenu, la hausse des ressources permettant d'investir plus en quantité et en qualité de ses enfants. L'effet de substitution, la hausse des incitations à la qualité plutôt qu'à la quantité. Donc, j'ai un effet, je suis plus riche, je peux avoir plus d'enfants dans lesquels j'investis plus. Ça, c'est l'effet de revenu. Mais l'effet de substitution, c'est que je vais primer la qualité par rapport à la quantité. Donc, au début, c'est le premier effet revenu qui domine. La population et le capital humain augmentent tous les deux. Mais après, ce qui va se passer, c'est que c'est le deuxième effet qui va dominer. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à mesure que le PIB par tête va augmenter, le coût d'opportunité d'avoir plus d'enfants plutôt que d'avoir des enfants avec de meilleure éducation va augmenter. Et je vais choisir la qualité des enfants sur la quantité d'enfants. Voilà. Alors, plusieurs facteurs viennent amplifier l'effet de la hausse de la demande de capital humain sur la fertilité. Le déclin du travail infantile, lié à une baisse de demande et une réglementation plus stricte. La hausse de l'espérance de vie, si elle est antérieure à l'essor démographique, cette baisse amplifie les incitations à l'investir dans la qualité des enfants, puisqu'elle augmente la durée moyenne de la vie productive. Alors, je vais maintenant passer sur cet article. Donc là, j'ai un article qui explique la baisse de la fertilité désirée par des facteurs non pas économiques, mais culturels. Donc là, ce que j'avais jusqu'à maintenant, c'est que je disais, ben voilà, il y a une accélération de Y sur L due à l'effet de taille de marché, et du coup, à un moment donné, eh bien, le coût d'opportunité de, le coût d'opportunité d'avoir plus d'enfants, j'ai intérêt à choisir la qualité plutôt que la quantité des enfants. Les auteurs expliquent la baisse de la fertilité désirée par des facteurs non économiques et culturels. Donc, on voit une nette baisse de la fertilité au Royaume-Uni. D'accord. Alors, par exemple, des libres penseurs sont jugés après la publication d'un livre prônant une famille moins nombreuse et donnant des conseils de contraception. Et là, il y a eu la couverture de ce procès par la presse, qui rend le sujet moins tabou. Stratégie empirique compare des villages où un journal a été créé juste avant, après le procès, et le résultat, c'est qu'on a une baisse de la fertilité de 2,7 naissances pour 1000 femmes dans les endroits qui ont eu accès au journal, c'est ça, hein, d'accord. Voilà. Alors, donc finalement, l'interaction entre fertilité et mortalité détermine la croissance démographique mesurée par le taux net de reproduction, c'est-à-dire le nombre de filles qu'aura une fille née aujourd'hui, si sa fertilité et sa mortalité suivent le rythme actuel. Un taux égal à 1 signifie que la population stagne, un taux égal à 2 signifie que la population double à chaque génération. Lors de la transition démographique, la mortalité chute avant la natalité, ce qui entraîne d'abord une croissance démographique, mais ensuite, ce qui va se passer, dans les pays en développement, la baisse de la mortalité a été encore plus rapide que celle de la natalité. Donc, c'est pour ça que dans les pays en développement, vous avez vraiment une beaucoup plus grande explosion de la démographie que dans les pays développés, notamment en Inde, le pays le plus peuplé du monde avec 1,45 milliard d'habitants. La Suède, évidemment, par contraste, le taux net de reproduction dépasse 1 sous l'effet de l'espérance de l'hausse de l'espérance de vie. Il se maintient à ce niveau, tandis que la fertilité et la mortalité diminuent. Depuis le milieu du XXe siècle, le ralentissement de la hausse de l'espérance de vie, alors que la fertilité continue de diminuer, a fait chuter le taux net de reproduction au-dessous de 1. Donc, l'exemple de la Suède illustre comment une même croissance de la population peut être obtenue par des combinaisons différentes de mortalité et de fertilité. Voyez. Et on voit que c'est très différent entre 1780 et 1915. Alors la France maintenant, eh bien, elle fait figure d'exception, elle débute sa transition plus tôt que les autres pays. La fertilité commence à décroître dès 1760, bien avant le décollage économique. La chute de la fertilité précède celle de la mortalité. Donc ça, c'est très curieux, parce que d'habitude, c'est la chute de la mortalité qui va avant la chute de la fertilité, ce qui atténue l'effet sur la population totale. Et ceci contribue à expliquer pourquoi la France, première puissance démographique d'Europe de l'Ouest, se voit progressivement dépassée par ses voisins allemands et britanniques. L'article cherche à expliquer le caractère précoce de la baisse de fertilité en France par la sécularisation du pays. Et là, c'est à nouveau les facteurs culturels. Des domaines démographiques précises et fréquentes manquent sur la période. Ils utilisent des données de généalogie publiées en ligne sur ce site génie.com et constituées par des particuliers à partir de registres paroissiaux ou d'état civil. Et ce qu'ils font à ce moment-là, donc ils comparent des données de recensement lorsqu'elles sont disponibles avec des résultats probants. Et à ce moment-là, pour estimer la fertilité, ils se concentrent sur les individus pour lesquels plusieurs enfants sont répertoriés. Pour s'assurer de la fiabilité de ces données, ils comparent aux données de recensement quand elles sont disponibles. Et quand on compare la France du 18e à la Grande-Bretagne à la même époque, on voit mal quel facteur économique pourrait expliquer une telle différence. La France a près de 2 siècles de retard sur le voisin britannique en termes de développement économique. Et pourtant, la démographie est très semblable. Donc, la baisse de la fertilité en France correspond à une période de perte d'influence de l'Église catholique depuis la contre-réforme au XVIe siècle, qui a vu de violentes persécutions à l'encontre des protestants et la condamnation du jansénisme en 1713. La hiérarchie catholique dispose d'une forme de monopole de la foi avec l'appui de la monarchie absolue. La sécularisation de la France explique par une réaction anti-élite qui se révolte contre cette hiérarchie religieuse toute puissante. Or, l'Église catholique était fermement engagée contre le développement de premières pratiques contraceptives. Le recul de l'influence de l'Église a pour conséquence un relâchement des contraintes sociales et morales vis-à-vis de la contraception. Les données sur la pratique religieuse au XVIIIe siècle en France sont rares. Il est toutefois possible d'analyser les testaments pour déterminer si ceux-ci comportent des références religieuses ou sont totalement sécularisés. Par exemple, demander que des messes soient dites en leur mémoire, etc. En Provence, on observe une forte sécularisation des testaments au XVIIIe siècle. Et on relie, sécularisation. Donc on utilise comme proxy de la sécularisation la proportion de prêtres réfractaires en 1791 qui refusent de prêter serment. Et les départements sécularisés connaissent un déclin de la fertilité beaucoup plus, plus d'un siècle avant les autres. Donc voilà, ça, c'est, donc l'effet est plus important dans les centres urbains les plus peuplés. Cela suggère qu'un certain niveau de développement économique pré-industriel est nécessaire à la transition de la fertilité. L'effet est également plus fort chez les familles plus nombreuses. Et donc, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, la démographie, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a une accélération du progrès technique par un effet de taille de marché, mais différents éléments conduisent à une transition démographique. Alors, initialement, la mortalité augmente. La mortalité, je veux dire, diminue plus vite que la fertilité dans la plupart des endroits, pas en France. Mais ça veut dire qu'au début, vous avez vraiment une explosion démographique quand vous avez cette accélération du progrès technique. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, eh bien, vous avez la baisse de la fertilité pour différents facteurs. Ça peut être des facteurs purement économiques, de coûts d'opportunité. Ça coûte cher d'éduquer des enfants. Ou bien moi, femme, quand le PIB par tête est élevé, ça me coûte cher de passer du temps à élever beaucoup d'enfants. Il vaut mieux que je travaille. Donc tout ça, ça fait que j'ai moins d'enfants. C'est des facteurs purement économiques qui expliquent la baisse de la fertilité. Mais il peut y avoir des facteurs également culturel, et peut-être que les deux sont liés, peut-être qu'aussi l'évolution culturelle est liée au fait que, eh bien, économiquement, on avait intérêt peut-être à avoir moins d'enfants, et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment la combinaison, en gros, de l'accélération du progrès technique et de cette baisse de fertilité qui, selon l'explication démographique, explique pourquoi, eh bien, le décollage a lieu. Alors la question, ils essayent quand même de dire que c'était différent en Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est et la Chine pour essayer d'expliquer pourquoi cette transition a lieu plus tôt et pourquoi le décollage a lieu plus tôt en Europe de l'Ouest qu'en Chine ou ailleurs. Moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup dans cette explication. Voilà, pour être totalement honnête, je pense que peut-être qu'il y a du vrai là-dedans, mais je suis très du côté de Mokir, c'est-à-dire que je crois beaucoup dans l'explication par les institutions. Alors je vais juste démarrer un petit peu, on va s'arrêter dans 10-15 minutes, mais je vais quand même démarrer sur l'explication sur les institutions. Alors j'essaie d'avoir maintenant, je n'arrive plus à voir les souris. Là j'ai un problème là. Je n'ai plus ma souris, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai rien, là. Elle est où?
Là, vous devriez l'avoir.
Ah, voilà. Donc, je vais institution. Voilà. Alors, diaporama. Alors, le rôle des institutions dans le décollage. Alors, j'ai dit une première explication, c'est de dire je sors de la trappe parce que, à cause de l'économie d'effet de taille de marché, eh bien, quand la population augmente à un moment donné, ça veut dire que il y a l'innovation s'accélère, et donc le progrès technique s'accélère, et donc le PIB par tête, la croissance du PIB par tête s'accélère, et à cause de ça, eh bien, ça induit à un moment donné une baisse de la fertilité, et c'est la conjugaison de la hausse du PIB par tête et de la baisse de la fertilité qui, à l'arrivée, fait que le PIB par tête va augmenter, puisque je n'aurai plus l'explosion démographique qui fait que j'absorbe complètement l'augmentation du PIB par tête due au progrès technique. D'accord ? Ça, c'est l'explication démographique. Alors, c'est surtout les protagonistes de l'approche institutionnelle, c'est Douglas North, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, Joel Mokir, qui donc, l'a obtenu avec nous cette année, et plus récemment, et puis l'an dernier, donc le prix Nobel de l'an dernier, c'est Acemoglu, Johnson, Robinson. Et donc c'est tout ce champ de littérature qui s'attache au rôle des institutions dans le développement économique. D'accord ? Donc je vais vous parler un peu, qu'est-ce que c'est qu'une institution, l'approche institutionnelle de la croissance et institution et décollage. Moi je vais juste rester de 10-15 minutes et après on va s'arrêter là et on reprendra la leçon prochaine, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'une institution? Alors où est-ce qu'on va aller d'abord? Mais après je dirai dans le détail. En gros l'explication que dit Mokir et les autres disent la chose suivante. Pourquoi ça s'est passé en Europe? Je vais vous le dire d'une manière et après on ira dans le détail. Vous vous souvenez que je vous ai dit, le paradigme schumpeterien, c'est trois idées de base. La première idée, c'est que l'innovation, c'est un processus cumulatif. Chaque innovateur bâtit sur les innovations précédentes. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle est le produit d'investissements par des entrepreneurs qui espèrent des profits d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux qui arrivent et ceux qui sont en place ne les empêchent pas d'arriver. La première, eh bien, on peut lier chacun de ces trois éléments à des éléments institutionnels. La première, c'est qu'il y a eu des institutions qui sont mises en place permettant la diffusion des idées. L'imprimerie, les universités, ça a été très important pour avoir une ouverture. On en a parlé un peu la dernière fois. Ça, c'est les institutions qui permettent la diffusion des idées. L'encyclopédie, vous vous souvenez ? La deuxième chose, c'est les droits de propriété. Là, il faut s'assurer que si j'innove, je ne vais pas être exproprié. Donc, c'est les droits de propriété. En France, sous la monarchie, on est exproprié très facilement. Il faut attendre Bonaparte pour qu'il y ait protection des droits de propriété. En Angleterre, c'est la Révolution glorieuse qui vous donne la propriété, parce que c'est tout ce qui limite la royauté. Quand le roi est tout puissant, il peut à n'importe quel moment, le roi et les féodaux, ils peuvent à n'importe quel moment exproprier n'importe qui. Et donc là, personne n'a envie d'entreprendre quoi que ce soit. Donc il y a l'idée de dire non, je veux quand même avoir une protection des droits de propriété. Donc vous voyez, la deuxième partie qui est l'innovation, c'est des investissements d'entrepreneurs qui investissent parce qu'ils ont l'espoir de réaliser des profits de monopole. Vous voyez, s'ils innovent, il faut des droits de propriété. S'ils ne les ont pas, on peut les exproprier. Et la destruction créatrice, c'est la concurrence en gros. C'est de dire, je suis un nouveau, on ne m'empêche pas de venir. Il n'y a pas des gens en place qui vont me dire « Non, tu ne passeras pas, quoi. Tu vois, je dois pouvoir rentrer. » Donc, tu veux quelque part une concurrence, quelque chose qui fait que tu as une certaine ouverture, une certaine concurrence. Eh bien, Mokyr va reprendre ces trois éléments. Il va dire, en Europe, au moment où a lieu la révolution industrielle, déjà, la première condition est remplie. J'ai l'encyclopédie, j'ai des universités, j'ai l'imprimerie, j'ai ce qu'il faut pour l'innovation cumulative. Deux, les droits de propriété, j'ai ce qu'il faut, une fois qu'il y a eu la Glorious Revolution en Angleterre et la Révolution française, menant à Napoléon, après Napoléon, on a quand même une protection des droits de propriété en France, meilleure. Elle n'est pas encore géniale, mais elle est meilleure. Et puis, il y a l'aspect concurrence. Et là, l'histoire de Mokyr, mais on reviendra sur le détail, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, en Europe, l'Europe est constituée de plein de pays. Si on embête un innovateur dans un pays A, elle ou il peut aller dans le pays d'à côté. Et la concurrence entre pays est quelque chose qui aide à ce que des nouveaux puissent rentrer. C'est-à-dire que si on empêche un nouveau de rentrer chez moi, des nouveaux de rentrer en France, ils vont aller en Suisse ou ils vont aller en Angleterre, etc. Or, en Chine, il n'y a que la Chine, quoi. Tu as le désert de Gobi, mais là, il n'y a que des dinosaures. Mais un peu des Cathy, quoi. C'est pas ça, le fait pas. Voilà. Donc, tu n'as pas en Chine, l'équivalent de cette concurrence entre pays européens. Et donc, on voit bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les éléments que donne Mokyr, ils sont une parfaite illustration des éléments constitutifs de la théorie schumpeterienne. La république des idées, la protection des droits de propriété et la concurrence entre pays qui fait que quelqu'un de nouveau avec des idées peut rentrer. Et parce que s'il est empêché dans le pays A, à ce moment-là, il va aller chez le voisin et faire l'innovation chez le voisin. Or, le premier pays n'a pas envie d'être surpassé par le pays d'à côté. Et ces trois éléments-là, selon Mokyr, expliquent pourquoi c'est en Europe et pourquoi c'est pas en Chine, pourquoi c'est pas ailleurs que s'est produit le décollage. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus probant que... Peut-être que l'aspect démographique a joué également. Je pense qu'il a peut-être été un facteur renforçant, mais je ne crois pas que c'est le facteur fondamental. Il a pu être renforçant. Effectivement, il y a eu accélération de la production des idées. On est passé d'une production où il y avait beaucoup de congestion sur la Terre. On échappe à la congestion en allant dans l'industrie. Ça, je crois que c'était très important. Et je crois dans la transition énergétique. Mais je pense que ça a été des éléments renforçants. Je crois que les éléments de base sont institutionnels. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Je vais commencer par vous raconter. Voilà l'histoire que je vais raconter. Donc, vous voyez, les histoires de base, vous avez l'histoire de la trappe schumpeterienne. Vous avez l'histoire démographique de comment en sortir. Et je viens maintenant de vous présenter l'histoire institutionnelle de comment sortir de la trappe. D'accord. Et maintenant, on va détailler l'histoire institutionnelle. Alors, dans Trésor de la langue française, on définit une institution comme un ensemble de structures politiques et sociales établies par la loi ou la coutume. Donc il y a trois principales caractéristiques. C'est décidé, conçu par les hommes en société, ça établit des contraintes, ça détermine des incitations. C'est en gros des règles du jeu, quoi. On détermine des règles du jeu, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, quoi. On doit interagir économiquement et il faut déterminer des règles du jeu. C'est comme mettre des feux rouges et des feux verts dans une ville, quoi, pour qu'il n'y ait pas trop de carambolage, quoi. Hein, d'accord. Et évidemment, ces contraintes vont influer sur les institutions individuelles. Si on m'empêche de faire tout ce qu'on... Si on m'empêche de tout faire, je ne peux rien faire, évidemment. Hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, Durkheim, par exemple, la sociologie est la science des institutions, de leur genèse, de leur fonctionnement. Pour Durkheim, les institutions reposent sur une contrainte. Un comportement déviant par rapport aux normes de l'institution sera sanctionné, que ce soit moralement, légalement ou physiquement. Mais pour que cette contrainte soit efficace, l'institution doit disposer d'une certaine légitimité vis-à-vis des individus qui en intériorisent les contraintes grâce à un processus de socialisation. D'accord ? Alors, les premières réflexions sur les institutions en économie sont le fait de l'école historique allemande, sous l'impulsion de Gustav von Schmoller, principe d'économie politique. Institution, c'est un arrangement pris sur un point particulier de la vie de la communauté, servant à des buts donnés, arriver à une existence, un développement propre, qui sert de cadre, de moule à l'action des générations successives. Ces institutions peuvent relever de la morale, de la coutume ou du droit, mais souvent, elles mêlent plusieurs de ces composants. Donc voilà, le travail à la croisée de plusieurs sens social s'intéresse à l'histoire des institutions, on retrace leur généalogie, le développement des sociétés humaines s'accompagne de la multiplication des institutions. Double ambition, inciter à une transformation des institutions pour en faire non pas un obstacle mais un stimulant qui encourage le progrès économique, intégrer les institutions et les organes dans les critères de comparaison des économies selon les pays et les époques. Alors, un économiste américain de l'Université de Chicago, profondément inspiré par les théories de Darwin et les travaux de Schmoller, il s'oppose aux premiers économistes néoclassiques en se concentrant sur les équilibres. Ils en oublient la dimension évolutive de l'économie, selon lui, et ils s'opposent aux économistes marxistes. Ils interprètent toute l'histoire à la lumière du seul prisme de la lutte des classes. Donc lui, ce qu'il pense, donc l'évolution économique est la conjonction de deux forces, un progrès technologique permanent et des institutions qui tentent de résister à ce progrès. L'opposition entre ces deux forces entraîne une sélection naturelle des institutions. Certaines, pas forcément les plus efficaces, perdurent quand d'autres disparaissent. Il prend l'exemple de l'émergence de ce qu'il appelle la classe de loisirs. À son époque, la classe dominante américaine, à l'abri des besoins primaires, se lance dans une quête de prestige social. Cela la conduit à dépenser sans compter pour marquer son statut dans un gaspillage de ressources que Veblen qualifie de consommation ostentatoire. Donc voilà, donc un petit peu l'institution, c'est en gros... C'est des règles du jeu, quoi. Voilà. Alors, elles viennent aider, elles sont censées aider le développement, mais elles peuvent des fois s'opposer au développement. Mais voilà, donc on a un certain nombre de règles. Et maintenant, on va passer à Douglas North, d'accord ? Donc, selon Douglas North, les institutions ont été conçues pour réduire l'incertitude dans les échanges humains. Par exemple, sur la qualité de ce qui est échangé ou l'assurance de pouvoir conserver ce qu'on a acheté. Elles ont ainsi contribué au développement économique, constituent un moteur essentiel, donc notamment les droits de propriété. Il prend l'exemple du développement du commerce maritime au Moyen-Âge. Celui-ci a notamment été rendu possible par la création de contrats commerciaux, le développement de l'usage de la lettre de change, l'élaboration de règles de fixation du taux de change. Alors maintenant, on passe à Cemoglu, Johnson, Robinson. Donc là, on passe vraiment au livre de Cemoglu, Robinson, et notamment aux trois articles fondateurs qu'ils ont faits, donc qui leur ont donné le prix Nobel l'an dernier. Donc, en fait, dans l'ouvrage Origins of Power, donc Why Nations Fail, Acemoglu Robinson distingue deux types d'institutions, inclusives et extractives. Les différences entre ces deux types d'institutions expliquent les différences de développement économique entre les États. Au niveau politique, les institutions inclusives se caractérisent par répartition du pouvoir dans la société, limitation de l'arbitraire, difficulté à prendre le pouvoir par la force. En gros, et sur le plan économique, elle se distingue par protection de la propriété privée, système juridique impartial, possibilité d'entrée de nouvelles entreprises et redistribution des ressources. En gros, les sociétés inclusives, c'est des sociétés où on tolère la destruction créatrice. Et les sociétés extractives, c'est des sociétés où c'est très difficile d'avoir des nouveaux qui remplacent des anciens. En fait, il y a un ensemble d'institutions dans les économies extractives qui font que la destruction créatrice est impossible, tandis que dans les inclusives qui sont là, eh bien, il y a, on ne peut pas avoir quelqu'un qui exproprie tout le monde. Voilà. Mugabe, c'est le contraire de ça. Vous voyez, donc, je ne peux pas, j'ai du répartition de pouvoir, j'ai limite l'arbitraire limité, je ne peux pas prendre le pouvoir par la force, la protection, la propriété privée est respectée, j'ai un système juridique impartial, de nouvelles entreprises peuvent entrer. Voilà, la Russie se détache de ce modèle, quoi. Elle évolue je ne sais pas si elle a jamais été inclusive, mais maintenant elle est clairement extractive et il y a d'autres pays qui évoluent dans la même direction. D'accord ? Donc ça, c'est et leur idée, c'est que quelque part, les économies qui réussissent, c'est les économies inclusives. Et les économies qui échouent, c'est les économies extractives. Voilà. Ça, c'est vraiment mais c'est très schumpeterien, quoi. Quelles sont les institutions qui favorisent la destruction créatrice, l'arrivée de nouveaux qui défient et qui arrivent quand même à s'imposer et à croître malgré qu'il y ait déjà des gens en place qui sont déjà puissants. Et donc là, c'est important d'avoir le pouvoir limité, parce que quand vous n'avez pas un pouvoir politique limité, à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que d'abord, un, je peux être exproprié si j'arrive, et puis deux, les entreprises existantes, elles font collusion avec le pouvoir en place, et pour empêcher toute nouvelle entrée, quoi. C'est tout ça qui ne va pas bien dans une économie extractive. Et donc, tout ce que vous voulez faire pour permettre l'entrée, il faut que d'abord, il faut qu'on ne m'empêche pas d'entrer. Donc je ne veux pas que les pouvoirs existants fassent collusion avec le pouvoir politique pour m'empêcher de rentrer. Deux, je veux que si je rentre et je réalise des profits, on ne me les exproprie pas, quoi. Et je veux pouvoir croître, je veux pouvoir prospérer. Donc c'est l'ensemble des institutions qui rend ça possible. Et quand je n'ai pas ça, selon eux, je suis dans ce qu'on appelle une économie extractive. Vous voyez ? Alors ça, c'est la distinction de... Voilà. Alors je continue un petit peu. Alors, par contraste, les économies extractives, eh bien, au niveau politique, eh bien, vous avez concentration du pouvoir dans les mains d'une élite restreinte, peu ou pas de contre-pouvoir. Sur le plan économique, absence de protection de la propriété privée, système juridique partiel, comme en Russie, le juge, il obéit à Poutine, hein, et barrière à l'entrée anticoncurrentielle, d'accord ? Et on est vraiment, là, la destruction créatrice ne peut pas avoir lieu, d'accord ? Alors, pour les auteurs, alors que les institutions extractives entravent le progrès économique, les institutions inclusives l'encouragent. Non, voilà. La comparaison des contextes institutionnels de chaque pays permet donc d'expliquer les différences de développement économique que l'on peut observer. D'accord ? Donc, leur intuition semble confirmée par les données empiriques. Des institutions peu inclusives politiquement, contrôle du pouvoir... Alors, il y a des mesures. Par exemple, il y a des mesures de Banque mondiale sur la liberté des médias, sur le contrôle du pouvoir exécutif, sur la protection contre l'expropriation. C'est des mesures qui existent. Et donc, on peut relier développement économique et ces différentes mesures. Et on montre effectivement qu'il y a une corrélation positive, que plus il y a de contraintes sur l'exécutif, plus le PIB par tête est élevé. Plus on est protégé contre le risque d'expropriation, plus le PIB par tête est élevé. Donc, il semble avoir, si on regarde une comparaison inter-pays, eh bien, quelque chose de consistant, de cohérent, de consistant avec... avec cette idée que, eh bien, protection des droits de propriété, limiter le pouvoir de l'exécutif, ça favorise le développement économique. Alors maintenant, la causalité pour aller dans les deux sens. C'est une corrélation que je montre là. Là, pour le moment, je n'ai pas. Il pourrait tout à fait être le cas que c'est parce que j'ai une économie plus développée que je peux m'offrir des institutions qui sont davantage développées. Donc là, il va falloir des instruments. Vous vous souvenez, chaque fois que j'ai un problème de causalité, je vais devoir trouver un instrument. Il va falloir, pour montrer qu'il y a vraiment un effet des institutions sur le développement économique, je devrais montrer qu'il y a quelque chose qui a changé les institutions et qui n'a d'impact que sur le développement économique que parce qu'il a changé les institutions, pour avoir un effet causal. Et ça, c'est ce que nous ferons la prochaine fois, c'est-à-dire que nous allons montrer un effet causal des institutions sur notamment limiter le contraint de l'exécutif, pouvoir d'exécutif et limiter la possibilité d'expropriation sur le développement économique. Donc on va montrer vraiment un effet des institutions. Et après, je reviendrai à Mokir. Je termine là. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.